89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Eh ben, vous venez de nous rejoindre sur les ondes radio FMR. Nous sommes le samedi 4 juin 2005 et nous ouvrons, comme tous les samedis, par les magazines, suppléments week-end, télé, BD, cinéma, puis le cahier du sport. Et à partir de 15h du mix avec Yaka Roulé, 17h Vie d'ordure, 18h30 Clark Nova, 20h Last Hetero Experience, coucou, 21h30 Liquid Sky, et à ce qui paraît c'était le DJ de Hallucination. Pardon, non, je m'égare. 23h Breakbeat Experience. Bah non, mais attendez, je vais pas lancer les gags trop tôt non plus.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Je crois qu'aujourd'hui ça va taper un peu, non ?
C'est ce que le soleil est dans à l'antenne aussi. Hein.
Ouais. Je crois aussi que ça va taper manière claque à la chinoise. Ah non, aujourd'hui c'est du bon, c'est du long, c'est du costaud. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Sinon... Ouais, je m'en lasse pas, c'est Timo Maas, extrait de son premier album Loud to Get Down, et moi j'en suis fan. Oui, je sais, je l'ai passé plusieurs fois, mais voilà quoi, je suis privé de Comme Michael Brother parce que le CD est protégé. Et protégé contre la lecture chez moi, ça veut dire. Oui, quand il y a marqué protégé contre la copie, moi je peux pas le lire chez moi, c'est sympa.
Et on va commencer le décompte des œuvres taxées aujourd'hui parce que je vais te taxer ce CD là.
Putain, t'es lourd.
Ouais.
Bon, donc nous avions un supplément week-end. Très cher Thomas qui va tourter pas mal. On va commencer avec le Indimland numéro 112 qui est donc en kiosque numéro 2 juin, 5,40€. Ouais, j'ai pas eu le temps de le chroniquer la semaine dernière. Je sais, c'est une honte. Mais c'est comme ça. Ghost in the Shell d'Innocence à Standalone Complex, c'est-à-dire à partir du deuxième film au à la série télé, toujours chez le même producteur, chez IG Productions, mais ça n'a rien, enfin si, c'est dans la continuité, dans l'univers. On est surpris justement des énormes différences qu'il y a dedans. Ce que vous écoutez, c'est la bande-son qui est faite par Yoko Kanno, du deuxième CD de la série, donc qui s'appelle Be Human. Bah, il est dans le coffret si vous avez acheté le quatrième DVD.
Ah ouais, avec le t-shirt. Hein.
Ouais. Toi, tu voulais me taxer le t-shirt.
Non,
dommage.
Non, 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 je te laisse.
Un dossier, une interview sur Stephen Chow. On y revient tout à l'heure. Le carrefour de l'animation qui a eu lieu à Paris au Forum de l'Image, c'est-à-dire c'est en fait une grande foire commerciale au dessin animé français, en plus de Annecy, là qui a lieu là en ce moment, hein, le festival d'Annecy. On a aussi ben à côté des comment dire. C'est une manière de recruter, de dire voilà, est-ce que ça vous dirait de travailler dans le dessin animé français, de vous éclater, de faire par exemple Funky Cops et compagnie. Mais il n'y a pas que ça, heureusement. Mais l'industrie du dessin animé en France est en train de reprendre du poil de la bête depuis quelques années. Il y a eu des petites calamités comme Calamity Jane justement. Et à côté, il y a eu de sacrées réussites très très bien foutues. Le Tokyo Anime Fair qui est vu par des yeux à chaque fois nouveaux puisque c'est la quatrième édition et c'est le quatrième journaliste différent qu'ils envoient là-bas. Et les mecs ils disent bon ça va quoi, c'est du commercial à mort et c'est uniquement sur le marché local.
Ils sont tous déçus les uns après les autres, c'est ça?
À peu près, ouais. Et un dossier sur Pixar, la machine à rêve. Et qu'est-ce que tu regardes là dans...
Là, je suis en train de regarder la une des dernières pages dans la rubrique news et brève. Donc là, ça me fout le ventre en l'air là, ce que j'apprends là. Ça m'étonne que tu l'aies pas relevé. Alors dans les tournages,
je l'ai peut-être fait exprès pour que tu le découvres. Ah, hein. Non, pardon.
Concernant Christophe Gans, tu aurais dû t'en douter que j'allais parler
de lui.
Eh oui.
Pardon. Eh oui.
Il vient de démarrer le tournage de Silent Hill, l'adaptation live du jeu vidéo éponyme. Il faut savoir que dans un excellent hors-série des Cahiers du cinéma, il avait dit tout le bien qu'il pensait de ce jeu et sa position en tant que joueur par rapport à ce jeu. Et je pense que les producteurs, ils se sont dit, il a l'air intéressé. On va peut-être lui confier les rênes du projet.
Allez, ben, voilà. Le petit Frenchie. Hein.
Voilà. Après les tournages avortés de Bob Moran et de Rahan, voilà.
Oui. Enfin, j'ai l'impression que Christophe Gans, il a abonné un peu au. J'espère, parce que c'est vrai que Silent Hill, c'est une ambiance énorme.
Ouais.
J'espère qu'il va arriver à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Dans les autres news, moi, que j'ai relevé de mon côté, ben, primo, c'est que Apple Seed, le film en animation, je parle pas de l'OAV qui a été produit par Gainax en 88 et qui était scandaleusement nul. Yeah. Ben, le film en animation, il sort le 31. On a déjà passé une partie de la bande-son, puisque tenez-vous bien, c'est une bande-son qui tape avec des anglais aux commandes, et elle est absolument, voilà, elle est très très bien. À côté, la fin de la série des Simpsons. Et figurez-vous que sur Slashdot, on a appris que ben, les Simpsons, il y a un film qui est en cours de production. C'est-à-dire que les producteurs, ils attendaient que la série Simpsons, qu'ils ont arrêté parce que faute de scénario, hein, c'est dur de se renouveler. Ils ont dit, on va faire un film, on va faire un long métrage, mais on veut pas le faire en même temps que la série. Donc, les Simpsons, si je me trompe, ils se sont arrêtés à la 14e saison. C'est littéralement
voilà,
énorme.
Ils en ont fait énorme. Beaucoup de saisons.
Voilà, donc il y a eu une première lecture qui a été faite avec les comédiens, donc pour cadrer les voix et compagnie, et pour lire le scénario, et à ce qui paraît, il est pas mal. Donc voilà, on n'en sait pas plus, puisque seuls les comédiens en ont parlé, évidemment, ils vont pas casser le film sur lequel ils bossent.
D'accord, et tant qu'on est aux news et brèves, toujours sur Animeland, la collection Asian Star, label vidéo lancée par Jean-Pierre Dionnet, va éditer en France la trilogie de Mamoru Oshii qu'il a donc tourné en live avec Red Spectacles, Stray Dogs et Talking Head. Eh, hey, c'est pas une bonne nouvelle.
Talking Heads. Non, c'est ça. C'est un truc fin années 70, ça, Talking Heads.
Talking Heads, c'est j'en sais rien, moi je l'ai pas vu moi le film puisqu'il est inédit en France.
Je te le ferai écouter. Enfin, d'accord. Bon, voilà. Ce soir sur MTV, eh bien, il y a les MTV Movie Awards, mais attention sur la version britannique de MTV, pas en France. Ben oui, parce que c'est plutôt verbeux. Donc vous risqueriez d'être paumé. Néanmoins, si vous voulez la voir, sachez que c'est rediffusé sur VH1 à 22h heure européenne, pardon. Et déjà rien que la bande-annonce avec Tom Cruise, oui le scientologue de service, elle est quand même assez poilante.
Ouais, rigolote.
Elle est assez rigolote. Oui, nous faisons des films, pour nous c'est tout à fait ordinaire. Nous faisons en sorte que vous croyez les choses que vous voyez à l'écran. C'est vrai que c'est très fort. En soi, c'est un très joli court-métrage. Jamais vu de bande-annonce pareille. Hein, ceci dit, la MTV sont très très forts. On va entamer avec... oui, pardon.
Ouais, il y a quelques brèves encore côté cinéma.
Oh, pardon, excuse-moi.
C'est pas grave. Bon, alors j'ai découvert avec stupeur cette semaine dans mon quotidien gratuit préféré, à côté de l'article sur John Waters, Papa répond au coup de fil obscène. Dans la rubrique projet sur le côté, on connaît maintenant le réalisateur du projet X-Men 3, puisqu'on sait que Bryan Singer est parti tourner la nouvelle version de Superman. Et donc le réalisateur de X-Men 3, je te donne en mille, c'est Brett Ratner, le réalisateur des Rush Hour. Pardon. Voilà. Et puis bon, dans la rubrique adaptation de séries télé, qui intéresse énormément Ben Stiller, puisqu'il était dans l'adaptation cinéma de Starsky Hutch, ben là il va participer à l'adaptation cinéma de Amicalement Vôtre.
Voilà, oui, j'ai vu ça. Oui. Ça promet d'être assez rigolo. Rigolo.
Je suis tombé aussi sur une page de pub sur les grands classiques de la Shaw Brothers qui sont réédités. Aux côtés de Vengeance de Chang Che, Intimate Confessions of a Chinese Courtesan de, excusez-moi la prononciation, Chu Yuan, et Shaolin Temple du même le Chang Che, on a Super Inframan. Ça c'est énorme. J'étais mort de rire.
Ouais. Laisse-moi deviner, c'est le genre héros de Super Sentai dans un costume ridicule qui va sauver la Terre et qui se change derrière un poteau télégraphique pour attaquer un monstre.
Bah écoute, tiens, je te passe la pub.
Oui, d'accord.
Tu regardes, constate par toi-même, effectivement, il a une tête de mouche.
Et les monstres derrière ont l'air sérieusement caoutchouteux. D'accord.
Voilà.
Ok, on est en terre conquis, si je puis dire. Hein. Pardon, excuse-moi, tiens, je te l'en. Oui, papier journal, quand on se le balance, forcément, ça vole dans tous les sens. On va attaquer maintenant les sorties
BD.
BD. On va commencer avec une bande dessinée d'un dessinateur. Peut-être vous en avez entendu parler. C'est un vieux de la vieille, si je puis dire, puisqu'il s'agit de Georges Best.
Georges Best, le joueur de foot. Non. Ah, c'est Best. Pardon.
Non. Best, B-E-2-S, c'est bien ça, mais il est pas joueur de foot. Georges Best avait travaillé aux Humanoïdes. C'est d'abord pour poser le personnage, c'est quelqu'un qui est adorable, qui doit. Bon, je pense qu'il doit aller sur ses 55-60 ans hein, maintenant, qui est un grand voyageur, assez infatigable, qui a fait des bouquins vraiment poétiques, assez étonnants, grand admirateur du bouddhisme tibétain et légèrement contaminé par Alejandro Jodorowsky, l'auteur de La Case des Métabarons, puisqu'il avait pondu avec lui un Lama Blanc, une série complètement métaphysique chez les humanoïdes associés. Cette fois-ci, Pema Ling, sa nouvelle série, sort dans la collection Repérage chez Dupuis. Le premier tome s'appelle « De larmes et de sang ». Alors, se déroulant au Tibet, moi personnellement, je craignais sincèrement que cet album ne soit qu'une séquelle, au double sens du terme. Vous voyez, c'est-à-dire un truc métaphysique, mignon, etc. Et alors là, la grossière erreur. C'est peut-être une claque assez énorme que je me suis pris dans la gueule parce que je m'attendais pas à ça de sa part. C'est une surprise assez étonnante. Car le discours est très critique sur le pays qu'il admire, sur le Tibet. Pema Ling, c'est une petite gamine qui vit dans un Tibet qui est un peu troublé. On ne sait pas trop à quelle époque ça se passe. Mais bon, il y a les lamas qui règnent encore sur le Tibet, il y a les Chinois qui se montrent de plus en plus envahissants, et oui, les velléités de la Chine sur le Tibet, ça date pas d'hier. Et avec ses parents, et ben elle fait partie d'une troupe de saltimbanques. Mais malheureusement, toute sa famille a été assassinée, massacrée par trois seigneurs de guerre. Et seul a survécu son difforme oncle Sonam, et donc la frêle Pema Ling, qui doit aller sur ses 6 ans, grand maximum, 4-6 ans. Pour la sauver, il l'emmène chez un Bouddha illuminé, le Fioé. Afin de sauver la jeune fille, il suggère de l'envoyer chez les moines, en prenant garde, un, qui ne découvre pas que c'est une fille, sinon, ben, pour eux, les filles, bah, va chier, quoi, t'es un être inférieur, etc. Et deux, ils ne l'endoctrinent pas avec leurs sutras idiots, c'est-à-dire qu'ils massacrent littéralement la religion bouddhiste, il est assez critique là-dessus, et sur l'organisation du Tibet historique. Et à partir de là, eh ben, on va suivre cette pauvre Pema Ling qui est restée muette devant le traumatisme qu'elle a vécu et qui a décidé en son fort intérieur de devenir une guerrière. Excuse-moi, j'ai pas sorti le bouquin. Zou.
Attends, je te prends le sac.
Tu me prends le sac, ouais, bah, ça va être plus simple. Pema Ling, moi personnellement, d'abord il y a le graphisme très chaud, assez étonnant de Georges Besse, puisqu'il a dessiné de faire des couleurs qui sont très chaudes, assez ocre. Dans l'histoire, qui sont vraiment quelque chose de prenant. Il y a les décors ensuite du Tibet qui sont vraiment superbes. Il connaît parfaitement son monde et là il a vraiment illustré d'une manière assez étonnante. Et voilà, on est littéralement transporté à la fois par l'histoire, à la fois par le drame, à la fois par comment il raconte justement le toit du monde, mais aussi comment il le décrit. C'est vraiment ouf. C'est.
Oui, mais t'es non, chamboulé, mais je t'ai déjà taxé une BD la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de la lire. Je vais accumuler la force. Bon, allez, tant pis, je te la prends quand même.
M'en doutais un peu, je ne sais pas pourquoi. C'est. Enfin, bon, voilà. Moi, je vous le conseille. Pourquoi ? Ben, primo, parce que. Voilà, il est beau, il est superbe. Il est assez étonnant dans son rendu et puis c'est une histoire qui est vraiment très très belle. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs bouquins à venir dans la sélection du prix de la critique de la bande dessinée, parce que voilà, il a une très 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 belle histoire. Non, alors si toi tu commences à regarder comme ça mes CD du sport, ça veut dire que tu vas me les taxer là. Hein. Donc voilà, donc on va laisser du sport s'installer. On va continuer avec une autre. Ah mince, j'ai mis le fond sur un même fond sonore. Oui, tu me montrais.
T'as rangé.
Freak Agency. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de redonner les coordonnées, si je peux dire, du bouquin. Georges Besse au dessin et au scénario. Pema Ling, le premier tome s'appelle De l'arme et de sang. C'est dans la collection Repérage chez Dupuis. C'est la première fois qu'il va chez Dupuis. Et dans la première édition, il y a un cahier graphique. Ce sont des notes de voyage plus que des croquis. Donc c'est bourré de notes de production, hein, entre guillemets. C'est. Voilà quoi, c'est assez beau.
Ah oui, c'est la partie artbook en fait.
Voilà, exactement. Oui, je change comme ça à la volée. Ouais, je me suis trompé. Freak Agency, le premier tome s'appelle Celui de sang. C'est une BD, c'est une nouvelle série produite par François Baranger dans la collection Postmortem chez Albin Michel. Collection où on a, je vais dire, où la qualité n'arrête pas de varier. C'est assez alternatif. C'est un peu dommage. Et là, eh ben, si les pages de garde citent du Howard Philip Lovecraft, s'il vous plaît, c'est tout à fait normal. Bah, ce n'est pas parce que ça commence comme un épisode de Sidney Fox et l'aventurier que la série est d'une mièvrerie consommée. Au contraire. Bon, je vous fais le pitch. On est en l'an 2000. June est une archéologue reconnue, conservatrice adjointe du Muséum d'Histoire Naturelle de New York. Bref, elle en impose. Elle est mignonne, en plus, qui plus est. Et s'il y a une vieille chose qu'elle aime pas trop, c'est sa mère qu'elle n'a pas vue depuis des années. Mais bon, comme elle est prête de passer de vie à trépas, elle décide de lui rendre visite, malgré ses 12 années de brouille. En route pour le Maine, pour aller vers le manoir de sa maman, et ben elle fait une halte dans un village juste avant. Et elle a bien du mal à croire qu'elle est en l'an 2000, vu comment les villageois la reçoivent. On dirait qu'ils ont tous quelque chose à cacher, quelque chose de pas clair, et la regardent vraiment d'un œil torve. À partir de là, l'histoire part entre chasse à l'homme, des choses... une chasse aux choses terrifiantes tapis dans les contrées du cauchemar, ou une histoire horrifique basée sur l'ambiance. C'est très 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 bien dessiné. C'est assez étonnant. L'auteur arrive à mettre les jetons par les ambiances qu'il crée. C'est très agréable à lire. C'est une série plus que prometteuse et au graphisme photoréaliste qui, je pense, devrait relativement plaire. À partir de là, ça devrait aller plutôt bien. François Baranger, donc Freak Agency, le premier tome, c'est celui de Sens, c'est dans la collection Post-Mortem chez Albin Michel. Et Thomas, je me demande pourquoi tu montres le bouquin, hein. C'est, y a pas de caméra là, on n'est pas en télévision pour une fois.
Au cas où tu te perds dans tes propres notes, hein. C'est déjà arrivé, je te signale.
Bon, allez, mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée des programmes.
Tu me la refais plus, Non, c'est fini.
Reprenons le cours normal de cette émission. Vous écoutez Supplément Week-end. Nous sommes le samedi 11 juin 2005. Il est midi 20. Ouais, il va faire beau ce soir. Et on va continuer dans quelque chose de beaucoup plus gai. On continue donc avec l'inspecteur Canardo. C'est une série qui est dessinée par Sokal depuis des années. Ça fait pratiquement 30 ans qu'il a créé ce personnage, c'est-à-dire un inspecteur, un privé croisé avec Donald Duck. Donc le 15e tome s'appelle L'Affaire Belge. C'est dans la collection Lille Rouge chez Casterman. Pour une fois, il est sans le chat le plus méchant de la galaxie, à savoir Rasputin, au contraire. L'inspecteur Canardo, qui était un personnage qui fut originalement dessiné à la idée noire de Franquin, et ben il redevient cette espèce de croisement entre un Donald Duck et le privé de Marlowe, une volaille cuite au whisky qui s'enfonce dans les bas-fonds de la ville pour résoudre les sales affaires de mœurs en s'étirant de la flicaille et autres ennuis. Enfin bref, la chasse au canard est ouverte en général quand il est sorti. Sauf que là, Sokal a décidé de parler des auteurs belges de bande dessinée. Partant du célèbre Institut Saint-Luc, c'est une prépa de Beaux-Arts qui a une section de bande dessinée renommée, même si en fait on n'apprend pas vraiment la bande dessinée là-bas. Hein. C'est un peu d'anticipation, si je puis dire, le programme qu'ils y mettent. Nous allons du mauvais côté du crayon, là où le trait des dessinateurs se noircit. Terry le Bassé est une série à succès auprès des enfants, et Willy Bollemans, son auteur, aimerait bien que son fils Rudy reprenne la boutique. Comme tout bon artisan, il aimerait que son fils soit le compagnon idéal. Pour cela, il l'envoie là où il a appris le métier. Saint-Luc, Bruxelles, Belgique. Une condition impériale pour que la série reste entre de bonnes mains. Le père Bollemans est atteint de la terrible tremblante du dessinateur. Alors, l'histoire est bourrée d'allusions au monde de la bande dessinée franco-belge. On aime, on n'aime pas. Mais alors, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que toute ressemblance avec une succession difficile comme celle de la série Boule et Bill ne serait que purement fortuite, puisque ce qu'il raconte, c'est un peu l'histoire Roba a essayé d'initier son fils, et son fils l'a mal pris d'ailleurs, puisque c'est pas lui qui va reprendre, c'est le dessinateur de l'abbé Vautillon. On va en revenir, non je me suis trompé sûrement, ouais bon. On va passer à de la mangas et puis voilà, oh putain.
As we look at the weather map, we see a cold front with forecast of sub-zero temperatures, with tomorrow's forecast for continued mild. Continued mild?
Oh, pourquoi je baisse le fond sonore au moment où je prends ma respiration, c'est un peu idiot. Haruhiko Makimoto, c'est l'un des designers, c'est une fille d'ailleurs, hein, au prénom. C'est l'une des designers qui a été sur la série Gundam à une époque. Gundam, c'est les séries comme Robotech, c'est-à-dire, il y a deux séries d'ailleurs concurrentes, il y a Gundam et Robotech, sont des séries qui sont étalées.
Macross.
Macross.
Macross
en VF, en VO, pardon, oui, mais parce que je le dis en VF pour les gens qui comprennent pas forcément.
D'accord, d'accord.
C'est des séries qui sont étirées sur, qui ont commencé à la fin des années 70 et qui existent encore par des sous-séries, etc. C'est-à-dire qu'ils ont pas arrêté de faire des séries filles pour renouveler le genre et surtout vendre plein de produits dérivés. Mobile Suit Gundam, l'école du ciel, le deuxième tome vient de sortir chez Pika Edition et il s'agit d'une série exclusivement manga. Et qui se passe ben justement entre deux chapitres importants de la série, c'est-à-dire qu'on prépare les pilotes à être ceux qui vont être dans la série suivante. Et donc j'en ai déjà parlé, que c'est l'histoire d'un pensionnat de jeunes filles qui en fait est un académie militaire où on apprend à piloter de gros robots. Et sauf que là, ben les jeunes filles, elles quittent la vie sur Terre de leur petit refuge dans le Canada, leur petite cabane au Canada, excusez-moi, c'était écrit dans le script, pour découvrir la vie en orbite et l'apesanteur. Bon, dans l'école de pilotage robotique de la Fédération des Forces Fédérales Terriennes... Attends, mais c'est quoi cette trad là pour... Asuna est la petite dernière de la promo, surnommée la petite nularde. Un comble alors que son père a tout fait pour lui donner un entraînement spartiate toute gamine dans les terribles engins de la mort. Finalement, elle va se ressaisir, prendre son courage à deux mains, les deux gros joysticks... bâton de joie, joystick... et s'entraîner sur les simulateurs à en perdre haleine. Finalement, elle gagnera son billet pour retourner dans l'espace, où elle se révélera pilote hors pair grâce à son sens de l'orientation hors pesanteur et ses pouvoirs innés de New Type, les ennemis mortels de l'humanité, car elle serait le fruit d'un croisement... Enfin bon...
Ah, ouais, bon, voilà. Encore,
hein. Non, même pas, d'ailleurs, c'est dit dans la série. Tiens, un truc rigolo, avant-hier, il y a une boîte japonaise qui a montré à la presse, il y a eu une superbe photo de l'AFP, un exosquelette à l'échelle humaine, c'est-à-dire que c'est, qui, c'est-à-dire une espèce de truc robotique, bras, jambes, qui, en fait, se porte plus qu'il ne s'enfile. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un truc relativement léger. Il détecte les mouvements musculaires pour savoir quels sont les mouvements qui sont à faire pour s'enclencher, mais ceci grâce en fait excusez-moi, j'ai supprimé les mauvais chapitres en fait de mon explication. En fait, il détecte les mouvements que vont faire les muscles, donc il doit amplifier grâce en fait à des champs électromagnétiques. Ce qui là est une petite nouveauté. Ben figurez-vous le démonstrateur, vu la faiblesse de la puissance de la traction électrique, et je vais dire quand même, techniquement, la traction électrique, les moteurs électriques, c'est pas quelque chose qui est super rentable sur le plan énergétique. Et ben devant les photographes, il n'a fait que soulever une frêle hôtesse. Bon, mignonne comme elle était, moi j'aurais tenté ma chance et joué l'enlèvement des civils, car je doute ce genre de prototype et un quelconque système anti-vol. Ah ouais, bon, par contre, c'est chômage direct et double procès. Donc, le système mioélectrique pour détecter les mouvements, eh ben, c'est dans la pure lignée des dessins animés japonais avec des robots. Puisque c'est seulement depuis Ghost in the Shell qu'on se connecte physiquement à son robot grâce à un plug, dans la tête. Nuque, ouais. Voilà. C'est uniquement depuis, donc, la série BD. Mmh. Et ouais. Après, ça a été, repris plus ou moins. Le robot de combat des dessins animés japonais de science-fiction se devait être, dans les années 80, pilotable au joystick, au palonnier, au mouvement de bassin et à la reconnaissance vocale. Point bas. Ah oui, pour cette dernière, il y a eu des efforts de fait, parce que dans les années 70, elle était un peu sourde, la reconnaissance vocale. Fallait crier « Oh, t'as l'argue !» pour que ça marche. Et encore, c'était une fois sur deux. Hein, en prince d'Al Gore là-dessus, enfin bon. Avec Ghost in the Shell, Masamune Shiro, eh ben, il a tout cassé. Il a laissé un manga... je me demande qui a été l'andouille qui a laissé un mangaka lire le Godel et Sherbach et le Black Book, le bouquin d'initiation à logique formelle et au langage C. Franchement, entre nous.
Je sais pas qui c'est.
Bah, je sais pas, bah, vu qu'on va être pressé par la pub, on continue. Avec une série, excusez-moi, donc c'était l'école du ciel, tome 2 de Mobile Suit Gundam chez Pika Edition. Nob, c'est l'auteur de Bugs. Le quatrième tome, excusez-moi, s'appelle le Bugs Show. C'est dans la collection Cho la Collex chez Glénat. Si vous êtes drogué aux séries télé d'avant prime time, de films de blockbuster calibrés in Hollywood USA, si vous achetez chaque coffret Definitive Ultimate G-Mega Top Mega Collector Gold Edition DVD Ultra avec sculpture intégrée en poupée vaudou des gens qui ne sont pas allés voir le film, eh ben vous allez pleurer de rire avec ces insectes qui se retrouvent personnages principaux sur grand écran. Taxi, Matrix, Lara Croft, Scream, Urgence, Dawson, 24 heures chrono, Friends, Shaolin Soccer, tout ça c'est revu et remixé avec des insectes un peu dessin animé français justement là avec les insectes, j'ai oublié, Eddie et les cafards. On retrouve tout cet esprit complètement allumé. C'est Nob qui donc fait Bugs, le tome 2, c'est The Bugs Show, c'est dans la collection Chola Collect chez Glénat. Ça va pas péter très haut, hein.
Tu me l'as mis sous les yeux pour me déconcentrer pour ma chronique tout à l'heure, parce que là franchement là, je me pisse dessus depuis tout à l'heure là. Il y a une parodie de Dawson, les premiers émois des ados indécis.
et tout est comme ça et c'est très 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 bien foutu et entre nous moi je me suis poilé quoi. Vous écoutez Radio FMR, il est midi 29 minutes et 55 secondes et là on doit passer la pub.
Mercredi 15 juin, Emir Kusturica sera en compagnie de son orchestre qui ne fume pas au Havana Café où il devrait quand même réussir à chauffer la salle à blanc. De fièvre slave assurée, fleurs d'aisselle et t-shirt mouillé, peu importe la raison, la fête est là où est Emir. Mercredi 15 juin, Emir Kusturica, c'est au Havana.
Deputy and sheriff, where I might be. I might be a bum in a port of Amsterdam. I might be a dork in a city of New York.
Oui, Emir Kusturica. Après les sketchs, bon allez, on dit que le morceau en question c'était Papa Don't Ever Die on Friday, c'était donc
Chat noir, chat blanc.
Voilà, le sketch des Guignols, c'était cette musique-là. Voilà. C'est pour ça qu'on voyait passer un chat à chaque fois. Ils ont jamais eu un chat à la bonne couleur. Je sais pas comment ils ont fait. Et là, je poserai la question. Hein. Là-dessus. Thomas, je crois que t'as une petite flopée de mangas toi aussi.
Ouais, mais de sportif exclusivement pour embêter du sport. Mais là je vais aller très rapidement parce que j'en parle à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort. Bon là je vais passer super rapidement sur Go and Go, les volumes 7 et 8 qui sont dispo avec donc Nita qui s'est empalé le pied sur une lame de cutter. Oh, ça fait un rebondissement pour deux tomes, tiens. Et parce que c'est un concurrent qui lui avait glissé ça dans la chaussure parce que c'était l'ancien lanceur de l'équipe à qui Nita avait pris la place.
Je vois que c'est sportif là.
Ouais.
C'est esprit cool, sportif. Ouais.
Et donc là, pendant deux tomes, il va faire de la rééducation dans une piscine, sauf qu'il y a un problème, il sait pas nager. Voilà, donc c'est le ressort
comique.
C'est
pas comique. Mal, c'est pas mal ça.
Voilà, c'est le ressort comique. Et ensuite, on a Gonta aussi, c'est le quatrième tome. À noter que la série en comporte uniquement 5, donc c'est mathématiquement l'avant-dernier. Et là, c'est Kinya qui va essayer de se mettre en condition avant d'affronter son super adversaire, génie de la boxe, en finale donc du tournoi de boxe. Il va se mettre en condition, il va essayer de le détester, un peu de concentration, il va se faire renverser un verre d'eau par son adversaire exprès pour monter la tension. Et Kinya donc va se révéler finalement à un niveau nettement en dessous de son adversaire, mais on ne sait jamais dans ces mangas de sport, des fois les petits teigneux montrent qu'ils ont moins de la ressource, ils en ont sous la pédale. Voilà, c'était
sous la pédale. Oh non, mais attends. Et je laisse pas passer ça, hein, comme ça. Attends, si tu dis devant du sport que les boxeurs c'est de la pédale, je te rappelle qu'il est allé voir un match de catch féminin. C'était dans un jeu de groseille ? Non ? Bon, d'accord.
Non. Sur un ring normal.
Normal. Bon, d'accord. Ouais, on continue. Je te prie sur les mangas ou c'est
non, c'est tout. Il y avait Gonta. Donc, on va rappeler les auteurs. Gonta, tome 4 de Katsutoshi Morita et Taro Nami. Et les tomes 7 et 8 de Go and Go, manga de Takao Koyano. Voilà, ça c'est sur le baseball et l'autre c'était sur la boxe.
On va entamer la partie cinéma dans Supplément Week-end. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h et quelques pelures bien tassées. C'est un morceau en général, chaque fois que je le passe, du sport, il a l'écume aux lèvres, hein, il devient tout rouge et il a essayé de m'étrangler, mais pourtant c'est exactement ce qu'il faut pour la suite. Hein. One, two, vous êtes sur Radio FMR, c'est Hallucination, je veux tous voir en train de faire le kung fu.
to make you moan. Something with a funky kung fu groove. Something that'll make you shout, make you play to the crowd, and make you wanna turn it out. So honeys, gather round.
Right round.
I'll pick you up and take you on, go pound for pound. 'Cause I'm the only man who'll please ya. I got a little something that'll tease ya. So throw those hands up high.
Come on.
Shake your body, move from side to side.
That's right.
'Cause we've just begun. Party people in the place, yeah, we're having fun. Oh yeah, I'm gonna be a big star. I'm gonna lay it on and go woo-ha. 'Cause when the mood gets exciting,
come on,
when everybody's kung fu fighting,
woo-woo fighting,
come on. In a disco, he's out to take his chance. He knows the honey's in the house, only go for romance. He's got a white suit on, 1:05, and the night has just begun. 'Cause when he lays it on with style, a ladies' man with a nice smile, and right before his eyes, sees a pretty young thing looking real fly. He wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the dance floor. He's giving her line after line. She tells him that he looks real fine. 'Cause he's the man, perfect timing. Just like when he's kung fu fighting. Come on! That's what I'm saying, while the retro disco track's playing. Gonna make you shout, make you beg for more. So get your body on the dance floor. So boys and girls, you know what to do. Throw those hands up and do the kung fu. Come on!
C'était donc Bus Stop featuring Carl Douglas dans Kung Fu Fighting, un remix absolument pitoyable. Et je crois me souvenir que c'est dans une série allemande de Kung Fu, dans le pilote ils ont utilisé ça pour, en guise de générique, le Jaguar, je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, le Jaguar, il me semble, c'est ça.
Ouais, mais je sais que ça m'avait. J'étais là, j'ai fait non. Les Allemands, même eux, ils prennent pas au sérieux leur série, d'accord. Ok, Thomas.
Bon, eh ben, on va passer à la rubrique cinéma avec un film qui est sorti mercredi dernier qui s'appelle Crazy Kung Fu et avec Stephen Chow que vous aviez découvert avec Shaolin Soccer. Enfin, peut-être avant d'ailleurs pour les spécialistes comme du sport. Non, peut-être pas. Non.
Non.
Bon. Ah. Bon. Alors voilà. Donc on va parler du scénar. Enfin bon, c'est un loser. Donc qui est interprété par Stephen Chow et son acolyte abruti veulent absolument devenir gangster car ils pensent que il y a uniquement cette voie qui peut leur promettre un avenir. Sachant que c'est l'action se situe dans le Hong Kong des années 40. Ils vont débarquer dans un mini village dégénéré et complètement loufoque en se faisant passer pour des membres d'une triade très puissante dont le chef abat des femmes dans le dos au fusil à pompe et en exécutant une chorégraphie à la Domation. En fait, c'est le chef du gang, c'est le mec qui interprétait le Gold de Shaolin Soccer et qui est le prof de danse de Stephen Chow d'ailleurs. Ce chef de gang utilise comme signe de ralliement un feu d'artifice en forme de hache. Nos deux débiles vont donc aller foutre le bordel dans cette communauté habitant la rue de la Porcherie, mais ils vont tomber sur un os.
En fait, les habitants vont se révéler assez surprenants. Et en fait, on va assister à une sorte de réplique du village des fous d'Astérix. Ils sont tous aussi barges les uns que les autres. Et finalement...
Les gogos, les gaulois.
Voilà. Et donc, Stephen Shaw et son acolyte, finalement, ils vont essayer de se faire passer pour des brigands, mais ça va pas les impressionner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, Stephen Shaw, il porte le film à bout de bras. C'est lui qui a un peu chorégraphié les séquences, même si c'est officiellement Yuen Wu-Ping et assisté de Sammo Hung qui ont effectivement chorégraphié les séquences. Mais lui, il a exigé un engagement à 200%, n'hésitant pas à leur faire refaire leurs mouvements. Ceux qui avaient fortement apprécié Shaolin Soccer pour ses gags visuels et un humour un peu cartoonesque, on va dire que c'est le même humour, hein, vous serez pas déçus en allant voir ce film. Et d'ailleurs, je commençais à en parler tout à l'heure, il a utilisé la même clique que le film précédent. Son acolyte, c'est le gros qui volait, hein, dans Shaolin Soccer. Et on a aussi certains vieux qui étaient déjà présents dans le film. Peut-être il y a une info que vous savez pas. Est-ce que vous saviez que Stephen Chow avait débuté chez John Woo?
Oh.
What?
Oh. 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 Oh.
Ah.
Oh là.
Oh. Tu veux dire qu'il a commencé dans la boucherie avant de faire le clown? Passer des passoires humaines aux têtes dévissées, son art martial est un brin sadique. L'acidité de ton sable n'a l'égal que le tranchant de tes chroniques. Dans sa bande, il recrute des vieux pour jouer les tours. Tex Avery est-elle la jeune génération, ce que sont les films olé olé de l'opéra de Pékin? Tu me casses les œufs de 100 ans. Dans le quartier chinois, les vidéoclubs ont des films avec des nunchaku longs comme ça. Et ses vénérables ancêtres, ils se sont fait corriger leur mère, où ils ont des restes aussi frais que la rosée sur les pousses de bambou. Et ils ont la vivesse aussi sournoise que l'honorable bip-bip des montagnes rocheuses. Il serait peut-être temps de reprendre le cours normal de cette émission en version française.
S'il vous plaît, merci. Oui. Oh, pardon, Thomas.
Voilà, donc on disait donc que le on assiste à un mélange assez déroutant de thèmes typiquement chinois, parce que Stephen Chow le cache pas, il est un admirateur forcené de Bruce Lee, des films où c'est un petit paysan qui va damer le pion à des organisations super puissantes et super riches.
Dire aussi que là-bas c'est une réalité, les triades, hein, le crime organisé, oui, ça, donc c'est assez populaire en général, hein, comme idée.
Voilà, et tout ça mixé avec un humour très occidental et cartoonesque. Je parlais de Tex Avery tout à l'heure, c'est tout à fait ça, les courses de Bip-Bip et le coyote, vous trouvez ça tel quel dans le film. Mais c'est là finalement, personnellement, que je trouve que l'ensemble souffre un petit peu d'un déséquilibre, une espèce d'entre-deux. Les moments de comédie pure sont vraiment à se pisser dessus de rire, mais elles s'arrêtent trop tôt, on n'a pas le temps d'aller à fond dans le côté comique du film, et elles sont coupées par des scènes de brutalité absolument assez violentes, finalement, assez surprenantes de la part de Stephen Chow, même si on avait vu déjà son penchant sadique où les joueurs de Shaolin Soccer se prenaient des ballons et les faisaient rebondir sur les barres à se péter les os. Donc c'est ça que je reproche un peu, c'est en fait c'est on a la partie comédie, la partie kung-fu, et contrairement à Shaolin Soccer qui participait d'un élan on mêlait avec une certaine maestria les scènes de baston avec des effets spéciaux et les scènes de rigolade cantonaise, tout ça dans une espèce de mélange qui fonctionnait super bien et qui était assez homogène, et ben là je trouve que c'est assez hétérogène, enfin
Le film manque d'unité, tu penses?
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, en plus, les scènes de combat sont magnifiquement chorégraphiées. On a une scène de baston avec deux musiciens qui jouent de la harpe. Et je vous dis pas comment ils s'en servent, mais c'est véritablement un engin de mort, quoi. Voilà. Et voilà. Bon, ben, en tout cas, si vous avez aimé l'humour Shaolin Soccer, et si vous aimez l'humour de Tex Avery, l'humour des dessins animés à Warner, allez-y les yeux fermés. C'est clair, le film fonctionne. Et les scènes de baston sont effectivement très bien chorégraphiées. Voilà. Et moi, ça m'empêchera pas de préférer Shaolin Soccer pour le pitch qui était super efficace.
Ouais. Ouais, ça se comprend un peu, mais en même temps, Shaolin Soccer a été remonté un nombre assez incroyable de fois. Je crois qu'il y a 5 ou 6 versions qui ont été en exploitation entre les salles et les DVD.
Ah oui, tiens, je vais finir par une petite théorie perso. En fait, Stephen Chow, il disait que ce qui l'intéressait, lui, c'est pas de faire des films uniquement pour le marché asiatique. D'ailleurs, là, il est allé tourner en Chine continentale, c'est ce qu'on disait pour le dossier de première la semaine dernière. En fait, lui, il veut toucher le plus grand nombre de gens. Et pour le film précédent, il avait eu l'idée de parler du soccer. Sauf que les États-Unis, le soccer, ils connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour ce film ?
Enfin, ils ont commencé à connaître avec la Coupe du Monde.
Féminine.
Ou l'équipe américaine.
Le soccer féminin, ils connaissent surtout. Et ben là, je sais pas ton avis du sport.
Oui, oui, non, mais tout à fait d'accord. Hein.
Ouais, ouais. Mais en fait, là, il s'est dit, bon, allez, comment on va faire pour toucher les États-Unis avec. Bon, on va utiliser le ressort comique des Tex Avery. Voilà. Non, t'es pas convaincu, Xavier.
Bon, ah, ok, soit, mais je pense qu'il aurait dû faire des screenings comme ils font aux États-Unis pour le moins de films comiques, calibrés exactement pour le redneck, etc.
Ouais, en tout cas, Kung Fu Hustle dans la VO a fait un énorme carton à Hong Kong. Ça a été le plus gros carton au box-office de tous les temps.
Moi, je remarque quand même qu'on parle de Stephen Chow, du sport est absolument fondu de cinéma asiatique. Et là, il nous fait la gueule. À mon avis, c'est parce que tu as parlé de sport, de sport, de sport. Et il a pas trop envie. Non, je sais pas.
Donc, non, enfin bon, je crois aussi que peut-être l'attente est un petit peu déçue parce que justement il y a cette histoire de traduction française, enfin française du film.
Doublé à la polonaise.
Tu l'as dit, hein, s'appelle Kung Fu Hustle. Ouais. Alors bon, bah quand c'est ce que ça veut dire Hustle, bon, on peut se dire bah ouais, on a compris quoi.
Ça veut dire quoi en fait simple. En anglais
C'est plus ou moins une arnaque, une embrouille. Une embrouille quoi.
Enfin bon.
Alors que bon, Crazy Kung Fu, bon, ok, c'est vraiment la traduction littérale de ce que va nous apporter le film. Hein, c'est-à-dire, bon, ok, des trucs complètement crazy et un petit peu de Kung Fu, quoi. Bon, bah, ça réduit un petit peu l'esprit de Stephen Chow, à mon avis.
Il y a une allusion assez rigolote qui démarre le film. La première apparition de Stephen Chow, il y a des enfants qui sont en train de jouer au foot. Et puis t'as le ballon qui arrive vers la caméra, et là t'as un pied qui arrive, et puis le mec il commence à jongler, et puis tu vois pas qui c'est. Et puis les gamins ils disent « Ah ouais, génial, ouais monsieur, tu nous apprends le foot !» Et puis là il éclate le ballon « Non, le foot c'est fini
!» Très bon, très très bon. On va commencer, oups, ah bah non, s'il se lève, c'est que il est peut-être pas encore près du sport, faut dire aussi que t'as pas été sympa, t'as parlé de sport et tout, maintenant là... On va lui faire un vrai générique, hein.
Et maintenant, tu vas me faire la rubrique télé. Ah.
Ça s'appelle de la provocation pure. Oui, un mensonge parfait, voilà, c'est à peu près toute la série, hein. En tout cas c'est bien vu.
Pour célébrer le dernier épisode de la saison 2 qui est passé hier soir.
Et voilà, donc, non mais si du sport, mince, t'es prêt ou tu es en train d'écosser les haricots là.
Faites monter la sauce, c'est impeccable, faites encore un petit peu monter la sauce, allez-y.
Bon allez, vas-y, fais un résumé, je sais pas,
s'attaquer en beauté.
Bah hier c'était le dernier épisode où on pouvait voir Famke Janssen, hein, qui interprète Phoenix dans X-Men, enfin notamment,
C'est pas au Chevalier du Zodiac, voilà. Ça va, ça passe.
Et c'est dans cet épisode qu'on apprend que c'est un travelo. Et comment ils s'en aperçoivent? Eh ben, c'est Troy, General McMahon, qui essaie d'abaiser et puis
fallait que ce soit lui de toute façon.
Oui,
hein.
Voilà. Et il s'aperçoit que le canal vaginal est trop étroit. Là, il y a un hic là. Et puis, donc, pour essayer de trouver des preuves, pour essayer d'extriper leur fils des griffes de Ava Moore, eh ben, en fait, ils vont trouver le médecin qui l'a opéré, qui n'est autre que son mari et qui est interprété par Alec Baldwin.
Eh oui.
Voilà, voilà.
Eh bien, rassurez-vous, il y a quand même une séance de rattrapage. Vous êtes vachement contents. Dès ce soir sur Paris Première à partir de 22h55, 8 épisodes à la suite.
De Nip Tuck.
De Nip Tuck, absolument.
De la charcutaille.
Absolument, c'est ce soir, donc à partir de 22h55 sur Paris Première, 8 épisodes, donc de quoi vous faire la nuit avec Nip Tuck, encore une séance de rattrapage. Malheureusement, je crois que c'est en VF, hein, me semble-t-il. Sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau aussi, c'est l'intrusion en force des séries britanniques sur quelques chaînes qui ont l'habitude de diffuser de la série de qualité.
Canal Plus, entre autres.
Entre autres. Tout d'abord, l'apparition de Shannen Doherty dans North Shore, Hôtel du Pacifique. C'est cette semaine ou la semaine prochaine, hein, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est cette semaine. Donc, c'est diffusé sur TF1 tous les samedis après-midi à 16h10. Avec James Remar dans le rôle du responsable de l'hôtel, hein. James Remar, impeccable. James Remar, respect à ce grand acteur. Sinon, on a pas mal de bonnes choses. Avant de parler des trucs anglais, il y a beaucoup de rediffs, mais c'est toujours très sympathique. Avec, par exemple, un Chimonsky qui est diffusé, Inspecteur Chimonsky, bah ça date, hein, quand
ça,
même.
Ça date pas mal, ouais, mais je les ai revus avec plaisir, c'est quand même pas mal écrit et bien.
Alors celui-là il date de 88 en fait, hein. Il faut dire que ça a été commencé dans le cadre de la série Tatort, hein, qui était une série allemande policière qui avait tous les samedis, je crois, de tous les samedis soirs sur la télé allemande sur ARD. Attends, si je lis bien, ouais, sur ARD, c'est ça. Et mais seulement au départ, c'était des histoires en tant que telles, un début et fin, mais un héros différent ou une héroïne différente à chaque fois. Histoire policière, donc, avec pas vraiment de héros récurrents. Et au départ, eh ben, il y a eu un premier épisode de Tatort avec Chimonsky. Il est devenu plus ou moins récurrent. Il a pu faire plusieurs histoires de Tatort au fur et à mesure des saisons, parce que bon, Tatort est une série qui est diffusée, qui est encore diffusée actuellement, hein, sur la chaîne allemande, qui est diffusée chaque semaine depuis le début des années 70, me semble-t-il. Alors vous imaginez le nombre d'épisodes, une fois par semaine, sauf pendant les vacances peut-être, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, comme ça a bien marché, et que l'interprète Goetz George était vraiment convaincant dans son rôle de Chimonsky, hein, Horst Chimonsky, Hauptkommissar, eh bien, ils ont décidé de carrément créer la série. Et c'est à partir de 1981, donc jusqu'à décembre 91, hein, dans le cadre de la série Tatort, hein, toujours sur ARD, qu'a été diffusé Chimonsky. Nous, on l'a attendu un petit peu plus longtemps. On a attendu un petit peu, je crois, 2 ans de plus avant de pouvoir voir les premiers épisodes de Chimonsky. C'était sur la Une, me semble-t-il, hein, à l'époque. Un épisode donc sur NT1, une des nouvelles chaînes de la TNT. Donc c'est ce soir à 0h15, un épisode de la saison, je sais pas combien, hein, qui s'appelle Coupable ou Innocent, qui est pas vraiment la traduction de Einzelhaft, mais qui bon, c'est dans l'esprit, avec l'histoire de Rolf qui purge une peine de prison. Malheureusement, sa fille, elle est menacée par ses ex-amis, et donc Rolf, c'est un voyou, mais au grand cœur, et qu'il respecte le code de l'honneur comme Horst, eh bien, ils sont devenus potes, malgré les différends qui les séparent, d'un côté ou de l'autre de la loi. Et donc, Horst, eh bien, décide de protéger sa petite fille, Ilona. Il y a également, c'est Brigitte Karner qui interprète le rôle de Ilona Vogtlander. Il y a également Suraj Kukura et Maria Hartmann, ainsi que Franz Böhm, hein, qui joue le rôle de Rolf Vogtlander, épisode qui avait été diffusé la première fois en août 88. Et après, sur la cinquième, la défunte cinquième, la cinq, c'était en 89, voilà, ça c'est le Chimonsky, ce soir à 0h15 sur NT1. Il y a également séance de rattrapage en ce qui concerne Autopsie, cette excellente série dont j'ai complètement oublié de vous parler la semaine dernière, qui a démarré sur Canal Jimmy jeudi dernier, avec un double épisode bien sympathique, hein, anglais, interprété par le personnage principal, donc le personnage d'un médecin légiste, et interprété par Amanda Burton, qui est depuis... là, ils ont commencé à nous diffuser à partir de la cinquième saison, tu vois. Chez Jimmy, c'est plus comme c'était. En plus, en version française, merci les gars, on est vachement contents. Ah, putain, pas de version originale. Merci les gars, super sympa. Même quand ça passe en deuxième partie de soirée, comme c'est le cas ce soir à 23h25, ça va jusqu'à 1h55 parce que il y a deux épisodes à la suite, mais c'est la même histoire. Mais c'est vraiment tip top, hein. Moi, j'adore les autopsies, le monde des autopsies. Là, c'est génial, hein. On apprend que entre 3 et 4 jours, on sait qu'un cadavre a 3 ou 4 jours parce que les larves ont déjà commencé à se nourrir dans les globes oculaires ainsi que dans les... Voilà. Si, c'est dans la série. Et donc c'est ce soir sur Canal Jimmy à partir de 23h25. Il y a également en même temps pratiquement sur Planet Choc, Autopsie, le documentaire. Donc c'est le sixième épisode ce soir à partir de 0h50. Encore de la série et encore de la rediff. Et encore, je suis vachement content quand même. Même si j'ai pas cette chaîne, mais enfin bon, pour les gens qui ont cette chaîne, ça vaut le coup. Jeter un coup d'œil, quand on commence à regarder cette série, généralement, on s'y attache parce que bon, c'est une série qui est vraiment une histoire. Il y a une histoire complète qui dure pendant pas mal d'épisodes. C'est une série qui a duré, je crois, 3 saisons, en fait, 2 saisons et demie, parce que, à la fin d'un certain cycle, d'une certaine histoire, il fallait retrouver un autre truc. Et puis bon, le studio avait décidé, non, ça fait trop chier, faut suivre, faut être là toutes les semaines et tout, à suivre une histoire. Là, c'est la première de Murder One de Steven Bochco qui, après le succès de Onmo et PD Blue, tous les producteurs et toutes les chaînes de télé lui ont filé les clés de la maison. Tiens, vas-y, fais ce que tu veux et tout. Tu veux manger dans mon jacuzzi, vas-y, fais-moi une super... Parce que bon, NYPD marchait à fond les manettes, c'était vraiment la consécration pour lui. Et donc, il s'est dit, ouais, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde de la justice, tout ça. Et donc, il a créé cette série Murder One avec l'affaire Jessica Costello. Qui dure, me semble-t-il, pour 10 épisodes tranquilles, hein, pendant 10 épisodes de 55 minutes, c'est l'affaire Jessica Costello, l'histoire d'une nana qui se fait violer, et par qui, alors peut-être par le petit copain, qui est interprété par Jason Gedrick, ou alors c'est le magnat tout puissant de la ville, magnifiquement interprété par Stanley Tucci, mais tout ça, ça va être démêlé peut-être par l'avocat de la défense, Daniel Benzali, qu'on avait déjà vu justement dans les premiers épisodes de l'épisode pilote de NYPD. Après, dans un rôle un petit peu plus récurrent de l'avocat de la mafia. Dans NYPD, il y a Daniel Benzali, également Mary McCormack, Michael Hayden, qui joue dans le rôle d'un bureau d'avocat, Vanessa Williams, et l'apparition, je crois pas dans l'affaire Jessica Costello, mais la deuxième affaire, une histoire de basketteur qui viole des nanas alors qu'il est marié. C'est marrant, et pourtant c'est sorti avant l'affaire Kobe Bryant, 2 ans avant l'affaire Kobe Bryant.
C'est assez étonnant.
Pas mal. Et dans lequel on voit apparaître, un avocat qui passe du rôle de la tournée, district attorney, c'est-à-dire le procureur, à celui de l'avocat de la défense, c'est un certain Anthony LaPaglia, dans Murder One, hein. Et Benzali contre Anthony LaPaglia, je peux vous dire que ça déménage pas mal. C'est assez bien, c'est diffusé donc sur Teva mercredi prochain à partir de 20h50 et ils ont l'air d'y aller à fond les manettes, 2-3 épisodes à la suite comme ça. Donc c'est regardable. Encore de la... Non, mais c'est vraiment bien, hein, vraiment quoi. Chapeau, hein, là. Et pourtant ça a l'air chiant parce que tout se passe dans un tribunal pratiquement, hein, les sessions, les audiences, là. Mais vraiment c'est pas chiant du tout quoi. Parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, c'est vraiment très très bien. Sinon, un petit Columbo derrière les fagots, ça vous dit ce soir,
oui,
20h50 sur TV Braise. Columbo de 78, réalisé par un certain Léo Penn, qui est le père de Sean Penn. Arthur Penn n'est pas le père de Sean Penn, c'est Léo Penn. Hein, ils ont le nom en commun, mais ils n'ont rien en commun. C'est-à-dire, ils ont pas bien de parenté.
J'essaie de comprendre le jeu de mots.
Arthur et Léo, quoi. Mmh. Ok, mais Léo, c'est vraiment le papa de Sean. Et c'est un réalisateur de télé, en fait. Hein. Il a pas tellement tourné de films dans le cinéma. Il a dû tourner quand même quelques œuvres mineures dans le cinéma, mais c'est vraiment un réalisateur de télé. C'est pas son premier Columbo. Il en a déjà fait d'autres. Il en fera encore quelques autres, me semble-t-il. Le rôle du méchant dans ce Columbo, interprété par Clive Reville, ça se passe en 78, et Clive Reville qui interprète le rôle de Joe Devlin, un poète irlandais qui fait du trafic d'armes pour l'IRA en 78. Et le problème, c'est qu'il tue le marchand d'armes qui veut l'embrouiller sur les prix. Et là, pas de chance, mon gars. Il y a Columbo. Tu vas l'avoir dans le baba. C'est ce soir donc sur TV Braise à 20h50. Sinon, je parlais justement de télé, de série anglaise sur Jimmy, Prime Suspect, deuxième partie de Meurtre en Bosnie qui s'appelle Criminel de guerre. La deuxième partie est diffusée lundi à 20h45 après avoir une partie impeccable, géniale. Super, deuxième partie, elle va aller en Bosnie comme ça, elle va découvrir quelques charniers, elle va revenir et puis enfin elle va le niquer parce que moi je suis sûr que c'est l'opticien en fait. Enfin on verra ça lundi. Autopsie, donc deuxième, ce soir c'est la rediff de celui de jeudi dernier et jeudi prochain, deuxième session d'épisode d'autopsie avec encore une histoire en 2 parties, froid comme la mort, à partir de jeudi prochain à 20h45. On parlait d'Anthony LaPaglia, FBI porté disparu, saison 2, c'est à partir de mercredi sur France 2, 21h.
C'est quand avec, qu'on va les avoir dans l'ordre avec
Deux justement, là, c'est bien parce que les deux épisodes, enfin, l'épisode en deux parties de la semaine dernière, c'était la fin de la saison, hein.
D'accord, ok.
Et là, ben, on attaque la saison 2. Par contre, je peux pas te garantir que les deux épisodes, c'est le début de la saison. Il y a l'épisode Le Bus et l'épisode La Source du Mal. Par contre, moi, j'ai trouvé très très chiant les deux épisodes de mercredi dernier.
La prise d'otage.
Prise d'otage, huis clos et tout, casse-couille. J'essaie de me mettre en valeur. C'était assez mal vu. Je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont nettement mieux de cette série. Là, c'était vraiment pas un exemple à montrer. Hein, je veux dire, bon, moi, ça m'a passablement fait chier quand même. On espère que ce sera quand même mieux mercredi prochain. FBI porté disparu. Donc, on a dans le, bah, c'est tout pour les séries. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Faut que je regarde parce que des fois je rajoute des trucs dans les deux côtés comme ça. Quoi. Non, que dalle. Du côté du ciné, des trucs vraiment bien. Ah, là, vraiment des trucs super bien. Quoi.
Ah, tu nous as gâté.
Ah, là, ouais, vraiment. Ah. Déjà avec mercredi prochain, un spécial fumette. Soirée spéciale fumette, les gars.
Ça
sur
va
TPS Cinéculte. Avec, ça commence à 19h25 sur TPS Cinéculte avec un documentaire en version originale qui s'appelle Grass. Grass qui veut dire l'herbe en anglais, ouais, n'est-ce pas? Et suivi par des films qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir sur les chaînes européennes françaises. Donc ça vaut le coup. Allez-y, même si vous tapez la, enfin là c'est TPS donc c'est version masterisée. Même si vous tapez la version française, c'est pas grave. C'est quand même à se pisser dessus de rire. Ça ressemble un petit peu aux Freak Brothers. Le premier film, c'est un classique, mais alors qui est connu par tous les n'importe quel ricain moyen, même au fin fond de son Middle West. Il doit connaître ce film, à mon avis, hein, s'il a quelqu'un qui a fumé de la ganja, ou qui connaît quelqu'un qui fume de la ganja, c'est Faut trouver le joint. Le film de Lou Adler de 78 avec Cheech and Chong. Cheech and Chong, qui était un duo hyper connu, vu qu'avec ce film, ils ont fait un carton mémorable aux États-Unis. Et que auparavant ils avaient déjà enregistré 5 albums qui parlaient que de fumette, hein. Interprété par Cheech Marin, un Cheech Marin qu'on retrouve le sidekick dans Nash Bridges, la série avec Don Johnson, et qui est également le tonton dans Spy Kids, le tonton qui vient avec Danny Trejo. Il y a deux tontons qui viennent les protéger comme ça parce que les autres ils ont été kidnappés. Dans le premier, rappelle-toi, dans le premier Spy Kids. Eh bien, c'est Cheech Marin et Danny Trejo. Danny Trejo, c'est le tatoué.
C'est le tatoué, ouais. Je vois que vous voyez tous les films de Roberto Rodriguez.
Ok. Hein,
tous.
Ouais, bah justement, il est dans pas mal de Roberto Rodriguez, de toute façon, Cheech Marin. Et Chong, Tommy Chong, qu'on a vu dans une série récente, That 70s Show. Alors là, c'est quand même assez chaud, mais il joue son personnage dans l'esprit dans lequel il était le personnage de Chong dans Cheech and Chong, hein, c'est-à-dire vieux babos qui fume les joints, qui est complètement à l'ouest, il est au 20e ciel, et c'est le patron de Steven. Steven, c'est un des potes de Eric, hein, le héros de That 70s Show, hein, le fils, et donc Steven, c'est celui qui est un petit peu rebelle comme ça, qui a pas de parents justement, et qui travaille justement dans ce labo de développement photo. En fait, c'est lui qui fait tout. Patron, il est jamais là, ou alors de temps en temps il est en train de fumer de l'herbe dans le labo à côté. Enfin bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est Tommy Chong. Donc alors, dans le premier film, c'est à 20h45, Faut trouver le joint. Ça, c'est le gros classique, hein, c'est vraiment le classique, hein. C'est l'histoire à la Freak Brothers, hein, c'est-à-dire bon bah ils trouvent qu'aux États-Unis c'est trop fliqué et tout, quoi, c'est deux babos, et puis bon, ils décident de partir au Mexique pour avoir de la cam un petit peu de meilleure qualité qui défonce plus, quoi. C'est la base du film. À 22h10, la suite, Cheech and Chong Still Smoking, là réalisé par Tommy Chong, hein, en 83, et là bah ils se retrouvent parce que au Mexique ça commence à être un peu craigneux aussi, ils se retrouvent où, à la terre promise, en Europe, à Amsterdam. Voilà, donc ça c'est à 22h10 dans cette soirée TPS Cinéculte, Cheech and Chong spécial Cheech and Chong. Sinon, redevenons vachement sérieux avec un très bon film de science-fiction britannique, bien qu'ils disent qu'ils soient américains, mais enfin bon, ils sont c'est plus anglais à mon avis dans l'esprit qu'américain. C'est réalisé par Donald Cammell et en 77, c'est Génération Proteus. C'est diffusé demain soir sur France 3 dans le cadre du Ciné Club à 0h20. Alors c'est déjà pas mal, hein.
Et c'est passé, c'est d'ailleurs rare, sur Cinéfix.
C'est assez rare, hein, qu'ils diffusent des films aussi récents dans le Ciné Club de France 3, hein. Faut le signer quand même.
Et puis de ce genre-là aussi.
Ouais,
non, mais il est surtout très 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 space comme film.
Complètement space là.
c'est un truc d'une histoire d'un ordinateur qui est tombé amoureux. Enfin bon, c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'il est très anglais par sa manière de faire.
C'est vrai.
Et en même temps, on retrouve un peu l'ordinateur, l'apocalypse, l'esprit des films catastrophes des années 60 avec les supercalculateurs.
Il y a un peu de tout. C'est vraiment étonnant.
C'est vraiment charnière.
Hein. Ah non, mais attention. C'est bon, si vous cherchez de l'action, si vous aimez le kung fu, laissez tomber. C'est pas la peine. Hein. C'est pas du tout le trip. Hein. C'est pas non plus du iRobot ou des trucs de pas du tout hein, ou du Men in Black. Pas du tout. Hein. C'est vraiment très. C'est assez space quoi, mais bon.
C'est plutôt Kubrick.
Ouais, plutôt Kubrick, ouais, tu vois. Ouais. Avec, mais bon, des fois c'est un petit peu glauque quoi, tu vois. C'est avec Julie Christie, donc c'est la nana qui se fait plus ou moins kidnapper. Hein, l'ordinateur la retient prisonnière au bout d'un moment. Interprété également par Fritz Weaver. Fritz Weaver. Duel. Le mec dans la bagnole.
Ouais. C'est pour chasser,
c'est
bien
Fritz Weaver. Ok. Ouais. Bon voilà, c'est sur France 3 demain soir à minuit 20. Sinon, il y a encore la rediffusion, mais moi je m'en lasse pas. De toute façon, il est bon ce film, quoi. Il y a pas de problème. C'est The Arrival, film de 96 de David Towie, qui après bah, nous a fait encore mieux avec Pitch Black
et Chronique de Riddick.
Ouais, bon, enfin.
moi j'ai bien aimé. Hein.
Ouais, bon, d'accord, ok. Bon. The Arrival avec Charlie Sheen entre deux cures de désintox, Lindsay Crowe, Terry Polo et. L'excellent bad guy Ron Silver.
Oui, et c'est dans ce film
le frère qu'il y a
les extraterrestres qui ont les genoux à l'envers là. Quand ils marchent avec les pattes à l'envers.
Ouais ouais, c'est impeccable, c'est lundi soir sur 13e rue à 20h50. Je vous ai chopé également le Clint de la semaine.
Ah,
ah et alors là attention.
Le Clint de la semaine.
Le Clint de la semaine, celui-là, il y en a qui se targuent d'avoir vu tous les films de Clint, même le premier Play Misty for Me. Mais alors celui-là, la sanction, il est quand même vachement plus rare parce que généralement on sait pas que c'est un film de Clint qu'il a lui-même réalisé. Hein, on se dit ouais bah il a fait l'acteur cachetonné et tout tranquille. Eh ben non, c'est pas du tout ça. C'est un film de Clint de 75, hein, coincé entre je crois le Chevalier électrique ou un truc comme ça. Enfin là où il est un cow-boy. Enfin, deux films de cow-boy.
Ah, oui, oui.
Et là, bah, c'est pas du tout ça, puisqu'il joue le rôle d'un professeur qui appartenait au service secret et qui va devoir faire de l'alpinisme, hein, pour essayer de dégommer un mec qui les a niqués.
Ah oui, l'alpinisme. Et ça se passe en Autriche,
hein, c'est-à-dire, paysage montagnard et tout, montagne partout, de la neige et tout. Puis bon, vraiment une séquence d'alpinisme à la fin qui est pas mal, hein, je veux dire, pour 75 et tout. Puis en plus, c'était Clint Eastwood qui filmait, je veux dire. Le mec s'est quand même bien démerdé, hein, c'est un peu confus, on va dire, hein, l'intrigue, mais, ça vaut le coup quand même. Avec George Kennedy également, Vonetta McGee. Et Jack Cassidy. Et alors c'est bien parce que j'ai marqué le film, j'ai pas marqué où est-ce qu'il passait, quand est-ce qu'il passait. C'est très très bon. C'est sur votre petit écran cette semaine dans l'un des nombreux programmes. Voilà. Il y avait encore un téléfilm pas mal pour ceux qui disent également j'ai vu tout John Woo. Ça c'est un téléfilm de John Woo. C'est juste avant qu'il attaque Volteface, un face-off. C'est-à-dire sur le premier où vraiment il a montré qu'il avait les couilles et qu'il avait le talent pour réussir à Hollywood.
C'est Blackjack.
Qui date de 98.
Ah, il est pas mal, hein.
Avec Dolph Lundgren et Kat Vernon. Dolph Lundgren qui joue le rôle d'un ancien mec des agents secrets qui est reconverti dans la protection de personnes. Et malheureusement, un ami proche de sa famille, un ami proche de la famille qui décède, et il doit s'occuper du cas de protéger une petite enfant, enfin bon, veiller à sa garde et tout, et en même temps protéger un pot de top modèle. Les boules, seulement il lui arrive un accident qui est un petit peu récurrent et qui revient.
Ça c'est con.
Quand il y a trop de lumière, ah bah, il devient aveugle carrément.
Il a peur du blanc.
Oh! Et c'est pour ça que ça s'appelle Blackjack, mon gars.
Et c'est con parce qu'il va pas pouvoir recycler ses colombes, hein, John Woo. Parce que les colombes, elles vont faire peur.
Et il y en a quand même.
C'est vrai que j'ai oublié.
C'est sur M6, c'est mercredi prochain à 22h35, Blackjack. Donc, et on termine avec, j'ai encore une feuille, c'est des documentaires. C'est alors déjà, c'est la récapitulation ce soir de la semaine spéciale sexe sur Planète. Avec tous les documentaires à suite pratiquement, hein, à partir de 22h30 ce soir, hein, Sexe à vendre à 23h20, Sexe Machine à 0h10, Plaisir Féminin à 1h05, À la recherche du pénis parfait à 1h50, Le Point G, et on termine à 2h40 du matin avec Le Clitoris, ce cher inconnu. Et Planète qui vous propose également lundi à 20h45 Meurtre à l'étude. Et là, ça peut être intéressant, hein, parce que c'est en deux parties. Hein. Il y a deux parties. Première partie, autopsie des crimes. En fait, c'est un anthropologue canadien qui s'appelle Elliot Layton qui essaie de décortiquer les mécanismes du crime. Et dans le deuxième, qui s'appelle Anthropologie criminelle, et il se pose la question, pourquoi certains pays développés produisent-ils plus de tueurs en série que d'autres ? À partir de ces deux questions, eh bien, ça peut être assez intéressant. C'est lundi, donc, dans la série Meurtre à l'étude. Il y en aura d'autres, hein, c'est toute une série comme ça. Ça passe lundi à 20h45 sur Planète. Voilà, et j'ai complètement oublié de vous parler, parce que bon, quand je le fous pas sur le papier, j'en parle pas. Pourtant, ça a l'air d'être la meilleure série de la semaine, qui est diffusé sur Canal+ jeudi prochain, série anglaise, donc qui s'appelle Présomption. Et là, c'est du tout neuf. Hein, ça, c'est passé à la télé anglaise il y a quelques mois. Et on retrouve dans un des interprètes principaux qui est Robson Green. Alors lui, ça commence à être la coqueluche de toute l'Angleterre. Hein, on l'avait déjà vu dans une autre mini-série diffusée par Canal+. C'était le samedi, qui s'appelait Traces de sang. Il interpréterait un rôle de profiler un petit peu psychotimique, on va dire, un profileur à la Adrian Monk, je dirais, enfin dans ces eaux-là, quoi. Quoique, bon, bah, ça reste britannique quand même. Et il y a également l'une des nombreuses de la lignée des Redgrave et des Richardson, c'est Gemma Redgrave qui joue également l'un des rôles principaux dans cette série qui s'appelle donc Présomption. C'est tous les jeudi prochain, donc, sur Canal+, à partir de 20h55.
Un lien avec Vanessa Redgrave?
Ah oui, mais enfin bon, attention, ça peut très bien être la famille par alliance des autres, parce que bon, bah, attention, hein, faut savoir que Michael et Vanessa, c'est pas du tout frères, ils sont pas du tout mariés, non, ils sont frères, et c'est pour ça que des fois on fait des... Mais c'est une famille, une longue lignée, hein, de toute façon, d'acteurs en plus et d'actrices.
D'accord, et eh ben moi j'aurais juste une chose à dire.
Je te le ferai la semaine prochaine si tu veux.
D'accord,
l'arbre généalogique.
Il dit que des méchancetés.
Ouais, bah évidemment, si chaque fois tu parles quand je lance un jingle, bon, c'est pas la peine. C'est la dernière fois que je le fais, pour m'y jurer, tout ce que vous voulez. Bah non, mais. Enfin bon, c'est rageant à force. Essayez de faire proprement les choses. Enfin bon, tant pis, que vous voulez. Eh ben, chers amis, chers auditeurs, c'était la fin de Supplément Week-end. Si vous aviez manqué le début, Thomas, peux-tu nous faire le...
Il y a du sport qui fait un nom avec le doigt. Peut-être qu'il a oublié de parler de...
Mais oui, j'ai oublié.
C'est le retour de Disport.
J'ai oublié de vous parler du film pourri de la semaine.
Ah,
c'est lundi sur la chaîne Action à 20h40.
Pourquoi je suis pas surpris?
Et ça s'appelle Gangland 2010, les barbares de l'apocalypse. Alors, écoute, avec le casting qui quand même, bon, on se dit ouais, ça va être du bien couillu, on va rigoler un bon coup. Costas Mandylor, Sacha Mitchell et Kathleen Kinmont qui est l'ex de Lorenzo Lamas.
Ah ouais,
qui apparaît d'ailleurs dans la série. Et il y a également Ice-T et Coolio.
Ah bah ouais, voilà.
Alors attention. Parce que ce film est quand même, quand ils disent Ice-T et Coolio, c'est quand même un petit peu, on se dit ça peut aller, mais c'est quand même de l'arnaque. Parce qu'en fait, les scènes de combat avec un Sacha Mitchell qui a vraiment bouffé trop de burgers et un Costas Mandylor qui lève la jambe pas plus haut que le genou, donc on va pas loin avec ça. C'est des suites de bastons, hein, en fait, ils cherchent à rejoindre une ville après une explosion nucléaire, bien entendu, c'est la catastrophe, il faut essayer de se frayer un chemin à travers les hordes de barbares.
Bon, post-apo bien pourri, ouais.
Alors là, je te la prête parce que bon, bah, la scène dans laquelle tu vois Ice-T et Coolio, hein, tiens, c'est tout au début du film, hein, ils s'amusent à dégommer des gens comme ça, c'est complètement gratuit, mais vraiment très gratuit. Ouais. Et ils se font quand même dégommer, puis après tu les vois plus, c'est tout, terminé.
Écoute, demain j'ai prévu de faire une après-midi film de merde, et là je pense qu'on va voir la programmation avec celui-là.
Alors là, tu vas être gâté. Donc okay. Ça passe lundi sur la chaîne Action à partir de 20h40. C'est vraiment le film pourri de la semaine.
J'ai Seb, si tu nous écoutes, on a de la matière pour demain.
D'accord. Je tiens à signaler que j'ai déjà lancé le générique de fin. Donc Thomas, s'il te plaît, pour ceux qui ont loupé le début et qui vont nous écouter sur Internet à partir de demain soir en téléchargement, qu'est-ce qu'ils ont loupé ?
Eh ben, ils ont loupé deux cassages de ta part hein, sur Calamity Jane et Appleseed, la série de Gainax.
C'est pas une série, c'est une OAV perdue. C'est un one shoot.
Ouais. Tant pis. On a eu une célébration avec un engouement tout à fait particulier pour du sport de la série Nip Tuck. Céline, célébration tout à l'heure, c'était cool. Et puis note pour plus tard, Xavier, il va falloir vraiment prévoir un jingle le clean de la semaine. Hein.
Le clean de la semaine. D'accord.
Et un jingle aussi Serial Killer parce que. Vu la rapidité qu'a eu du sport pour exécuter toute la programmation sur le sexe et puis revenir voilà, au dossier sur le killer, là, ça force le respect.
Hein. Ça force le respect, mais l'ennui, c'est qu'il faut connaître avant sa prog avant de vous lancer le jingle, c'est imposable. Cette émission, eh ben, Thomas, se termine. Merci à du sport, entre autres, pour le doublage français. Oui. Et la suite des programmes à 15h, il y a qu'à rouler, 17h, Vie d'ordure, 18h30, Clark Nova, 20h, Last Hetero Experience, 21h30, Liquid Sky, 23h, Breakbeat
Experience.
Vous êtes sur Radio FMR, nous sommes en direct et en public jusqu'à 5h du matin et on a débordé que de 14 minutes et 39
petit
secondes.
Petit bras aujourd'hui là, franchement.
Petit bras, ouais, mais d'un autre côté là, il vient de remonter, tu vois, alors vu que c'est lui qui commence l'émission, tu vois, je suis obligé de meubler, je fais comme je peux et puis voilà. Je vais juste dire qu'il s'agit du morceau de Dharma One, Weekend with Brandy, qu'on écoute là dans le fond sur Tokyo Down Record et qui est chargeable librement sur le net.
Voilà,
là,
et vous excuserez votre serviteur de ne pas pouvoir être là la semaine prochaine.
Voilà, donc la semaine prochaine sans Thomas, moi pour l'instant j'assume. Service minimum. Tu peux m'envoyer Sabrina peut-être non.
Bon, non, d'accord. Okay. Elle verra avec moi donc.
Ah, dommage. C'est con. J'étais pourtant bien essayé pour essayer de lui piquer sa copine.